problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata
Roussanou.
Il a tué la baraque et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit. Nous sommes en direct comme tous les soirs à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News dans l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Bien sûr, analyse de cette première soirée de la semaine de Ligue des Champions dans l'After avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Lionel Charbonnier avec nous également ce soir. Lionel,
salut Gilbert. Oui, bonsoir à tous.
Nos drôles de dames, évidemment. On va démarrer avec Paulo Breitner et Julien Laurence pour le match Chelsea-Bayern. Paulo, bonsoir.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Donc Julien était obligé de subir ça ?
Julien, il va arriver dans quelques instants. Hein. Bah ouais, c'est prévu, c'est calé, donc bah faut venir assumer hein, maintenant. Hein.
L'économie de cette soirée, le pauvre.
Tout à l'heure, on aura Fred Hermel et Simone Rovira, bien sûr, pour parler en détail de Naples-Barça, un partout, le Bayern qui gagne à Chelsea 3-0. Et vous saurez tout des choix de Rudy Garcia concernant le match de demain entre Lyon et la Juve. Donc ce sera dans quelques minutes. Voilà le programme de l'After. Jusqu'à minuit, on vous attend au 32-16. On vous attend sur Direct Studio, sur nos
en
applis
même temps.
RMC, RMC Sport et sur le hashtag RMC Live.
Gilbert.
Oui.
Julien, l'année dernière.
Ah bah, il marchait sur l'Europe.
Pour sa première année, il fait carton plein. Que Polo lui rende par un comeback. Comeback de Polo cette année.
Voilà.
Bim.
Bah c'était, tu sais, c'est le secret de Polo.
Il met deux clubs en quart ou trois et Bayern au bout.
Le secret de Polo, c'est le gegenpressing. On le sait bien. C'est-à-dire qu'il a subi un peu le pressing et hop, il était là, tu vois, pas très loin. Et hop.
Normal pour un comeback, les clubs allemands se comportent bien.
Allez, les trois points, on y va. C'est parti.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Lionel, quels sont tes trois points de débat ce soir que tu veux détailler dans l'After?
Bah, moi, jusqu'à maintenant, mon premier point, je parlerai des équipes qui m'ont le plus plu. J'en ressors quatre. On m'a demandé d'en ressortir quatre.
Bah non, tu peux en ressortir deux si tu veux.
Non, bah,
même plus.
Mais quatre, Bayern, Leipzig, deux Allemands et Atalanta, Naples, parce que Naples, malgré tout, j'ai bien aimé. Mon deuxième point, je trouve le Barça en mauvaise posture, notamment de par son effectif, là, entre les expulsés, les blessés, je sais pas où est-ce qu'ils vont, plus le gros match qui les attend en fin de semaine. Et puis mon troisième point, eh ben enfin j'attends Lyon demain avec une grosse impatience, voir ce match et leur comportement contre la Juve.
Daniel, quels sont tes trois points à toi ?
Non, Lyon, j'en parlerai demain parce que là ce soir.
Moi j'en parlerai ce soir. Parce qu'ils vont jouer une défense à 5. Il faut qu'on analyse ça.
Le Bayern, j'ai trouvé que cette équipe était absolument complète. Elle m'a beaucoup plu collectivement et certaines individualités méritent qu'on s'attarde sur elles. C'est mon deuxième point. Évidemment, beaucoup ont été très bons et tout le monde pense à Lewandowski. Mais ça, on est habitué. À Gnabry, lui, c'est vrai, c'est intéressant d'en parler. On l'avait vu en poule contre Tottenham, mystère égalé. Mais forcément, ça va me plaire de parler du petit Davis. Et de la façon dont il a été recruté, chose que nous sommes incapables de faire ici. Et le troisième point sur le Naples-Barça, match que j'ai trouvé moins intéressant que Chelsea-Bayern, avec un petit Barça, mais un Naples pas assez fort pour en profiter, malheureusement pour eux.
Bon, moi j'ai à peu près les mêmes points que vous. Je veux parler de Lyon parce qu'on se dirige vers une défense à 5, ce sera en fin d'after. Mais surtout, Polo, on va démarrer là-dessus, avant d'accueillir Julien Laurence. La Bundesliga marche sur l'Europe.
Oui, enfin, ça va très vite dans le football. Là, rappelons que l'année dernière, encore une fois, en huitième de finale, les clubs anglais avaient éliminé trois équipes allemandes. Et là, on est bien parti pour avoir l'effet inverse, au minimum deux. Ce qui m'impressionne, enfin, je rejoins ce qu'a dit Daniel sur le Bayern.
De Leipzig Bayern, hein.
Oui, Leipzig, oui.
C'est tout.
Il ne veut pas croire à la victoire.
Moi non plus, je ne veux pas croire.
Moi, encore une fois, avant la rencontre, on disait que il y avait un sentiment en Allemagne que le Bayern Munich qui était peut-être, j'ai pas envie de dire le favori de la compétition, mais
l'un des favoris,
et que ce test contre Chelsea était très très important. J'ai failli voir en fait un match de Bundesliga, c'est-à-dire une première mi-temps où l'équipe qui est en face tient tête en fait au Bayern, parce qu'il y a quand même quelques occasions, même si c'est pas des grandes occasions de Chelsea, et même si le Bayern a la domination.
Dans le dernier quart d'heure, mais la première demi-heure, déjà on voit nettement le Bayern supérieur. Ils prennent le ballon, ils le rendent plus, ils dominent, ils s'installent.
La seconde Bayern était là de la dominer de la tête aux pieds.
Non, mais ils ont quand même dominé le
même
Bayern.
Des joueurs, même des joueurs qui étaient relativement moyens comme
Daniel. Je veux dire, la première mi-temps, ils se sont installés, la deuxième, ils ont fait la déco.
Exactement, c'est ça. C'est exactement ça.
Ouais, c'est ça. Ils ont buté, ils ont eu trois occasions que, comment il s'appelle, le Caballero a su avec brio intercepter. C'est tout. Mais après, en deuxième mi-temps, ils ont su tuer le match. Après, t'as du Lewandowski, t'as Gnabry, t'as des mecs quand même qui sont tout le temps en mouvement. Je comparais la première mi-temps du Bayern qui avait dominé à 60%, ils ont eu 60% de possession, avec celle du Barça, de la première mi-temps du Barça, 60%, autant de passes, des stats quasiment pareilles.
Sauf que dans le jeu,
t'as rien à voir. T'avais des attaquants du Bayern.
La limite
avec
des stats.
C'est ça.
C'est la leçon de ce qu'on fait du ballon. Tu vois, avec le
exactement. Les positions des attaquants, on peut en parler. Que ce soit Gnabry, que ce soit Lewandowski, des mecs qui sont même vas chercher en point d'appui. Et les mecs sont tout le temps en mouvement.
Ça
de l'autre
vite,
côté, le Barça, c'était statique.
C'est juste techniquement.
Julien Laurence nous rejoint. Il est au stade à Chelsea. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert. Salut à tous.
Salut Juju.
Bon, dis-moi. Bon, alors Chelsea, c'est pas la grande année de Chelsea, hein. On a vu des meilleurs Chelsea évidemment, mais enfin tout de même là, se faire corriger comme ça.
Des meilleurs Chelsea, il faut être précis, Chelsea n'est plus allé au-delà des huitièmes de finale depuis 2014, l'année où ils sortent
depuis la fucking disgrâce.
Tout le même effectif.
Non, ils avaient battu le PSG de Dembaba. C'est la dernière fois qu'ils vont loin en Ligue des Champions, puisque cette année-là, ils étaient allés en demi. Et on doit être ça doit être 2014 précisément. Voilà. Depuis, Chelsea n'est plus allé au-delà des huitièmes, donc c'est une équipe qui au niveau de la Ligue des Champions est quand même redescendu. Ils ont gagné l'Europa League, ça il faut le dire, mais en Ligue des Champions, c'est quand même un nom
pas le même niveau,
qui est un peu en recul. Ouais. Voilà, juste pour
resituer. Enfin bon, ils ont quand même pris une bonne leçon, Julien.
Ils ont pris une rouste, d'ailleurs la pire défaite dans leur histoire européenne pour Chelsea. Effectivement, c'était bien trop fort côté Bayern, même si en première période ils ont souffert, c'est sûr, hein, ils ont concédé des occasions. On a vu Caballero devant Lewandowski notamment deux fois, la tête de Müller sur la transversale bien sûr. Ils se sont créé quand même quelques occasions aussi, mais tu sentais déjà même à la pause qu'il y avait une différence, il y avait une classe d'écart entre les deux, et qu'à un moment forcément à part une seconde période vraiment exceptionnelle dans les deux surfaces pour Chelsea, qu'ils allaient avoir du mal à s'en sortir. Et puis en seconde période, tu as vu la différence qu'un joueur comme Gnabry peut faire, que Lewandowski peut faire. Si en plus Azpilicueta glisse sur le premier but, si en plus il montre ses limites défensivement aussi, parce que c'est plus le joueur qu'il a été non plus, et que offensivement, quand t'as des demi-occasions, tu sais pas vraiment quoi en faire. Quand Abraham est rentré, il y a un 3 contre 3 à un moment où ça doit rentrer, ou en tout cas ça doit être plus dangereux pour Neuer. Et voilà, t'as pas su saisir ces demi-opportunités là, et en face t'as une très très grosse équipe, et ça montre aussi l'écart entre les deux. Mais avant le match, on savait déjà qu'il y avait, que le Bayern était plus fort. Il aurait vraiment fallu que Chelsea soit très bon ce soir et très bon au match retour pour espérer de rêver pouvoir se qualifier, mais on savait très bien qu'il y avait quand même une classe d'écart entre les deux, ce qui est tout à fait normal.
Avant de continuer sur ce match, juste quand même un truc là. Donc deux clubs anglais battus par deux clubs allemands en Angleterre à chaque fois. On va dire quoi en Angleterre de ça, Julien ?
On attend le match retour, bien sûr. Gilbert, calmons-nous avec la Bundesliga. Non, sérieusement.
Au-delà, Julien, de la comptabilité des clubs.
Leçon football.
Moi, je veux bien. Après, il faut s'arrêter au cas, parce qu'après tout, on s'en fout que les Anglais battent les Allemands, machin, il faut regarder. Chelsea. Je disais, leur bilan récent en Coupe d'Europe. Bon, il faut aussi préciser que c'est une équipe qui a un club en totale reconstruction, qui sort de
énormément de jeunes, de sanctions,
en transition, qui vont peut-être chercher et tout, mais en tout cas leur état actuel, c'est que c'est une équipe jeune que Lampard va essayer de reconstruire avec beaucoup de jeunes assez talentueux qui peut-être dans quelques années brilleront en Ligue des Champions, et qu'ils font face à une équipe où il y a un mélange de joueurs très expérimentés, puisque t'en avais trois qui étaient déjà là en 2012 quand même dans cette finale contre Chelsea, et donc trois champions d'Europe, champions du monde, enfin les grands Allemands. Qui entoure des jeunes très intéressants, on a dit, dans les Gnabry, le Davis,
Davis
qui n'est pas un Allemand, hein, qui faut le dire, est un Canadien, donc puisque je voulais en parler, Lionel, toi qui aimes bien les histoires de recrutement et de savoir comment on fait, hein, donc je.
Non, je sais comment on fait.
Non, mais. Non, alors comment on ne fait pas plutôt? Parce que 10 millions.
Ah ouais, non, mais.
10 millions à Vancouver. Je sais pas si les recruteurs français, je pense que Vancouver, pour eux, c'est à peine une chanson de Véronique Sanson, ça va pas être recrutement club de foot. Hein. Donc je pense pas qu'ils vont s'intéresser à un joueur qui joue là-bas. D'ailleurs, il fallait aller le chercher. Mais Fred Picken, on en avait parlé.
Après Daniel, juste.
Oui, parce qu'il l'avait croisé dans.
C'est quoi pour moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si on va chercher un mec.
Ah oui,
dans la Gold Cup.
Dans la Gold Cup, non?
Voilà, il a à la base, c'est un attaquant. C'est un attaquant, il nous avait dit, c'est un attaquant côté gauche, le Bayern le prend pour en faire un attaquant.
Pour en faire un ailier, en fait. Ailier. Le mec, en fait.
Arrière gauche, t'as vu la mobilette que c'est?
Ouais, bien sûr.
Incroyable.
Mais je me demande
c'est
aussi
une sorte de Maxwell Cornet du Bayern.
Est-ce que si on recrute, est-ce que si nous, les Français, Daniel, on recrute un mec comme Davis, bon, est-ce qu'il est aussi bon?
Oui, aussi, c'est l'autre problème. T'as raison.
Il y a quand même,
j'ai mis un petit bémol.
T'as raison, mais pour
l'autre. Ce qui m'impressionne, c'est. C'est aussi pour ça que j'aime le football allemand, c'est que depuis quelques années, on a une tendance toujours à chercher l'individu qui fait la différence dans les équipes. Et moi, lorsque je vois les équipes allemandes, j'ai pas envie de sortir forcément un joueur du 11.
Exactement.
Tu vois, Jérôme Boateng était pas bon, il a perdu 3-4 kilos cet hiver, ça a l'air de rien, bah, je trouve qu'il fait son match. Alaba, qui a été repositionné en défense centrale, il fait son match. Le milieu de terrain, Kimmich, Thiago, Müller, avant que.
C'est bonifié dans la classe de Lewandowski,
elle se voit à chaque fois quand même.
En huitième de finale, ça faisait un bout de temps qui marquait pas.
Toi qui étais au stade.
Et non, je suis d'accord avec Polo, mais quand même, ce soir, Kimmich, Thiago Alcantara, c'est exceptionnel. Hein. C'est du très gros niveau. Hein. Ouais, et même, encore une fois, tu le sais avant le match et tout ça, mais quand t'es là au stade et que tu regardes et que tu les vois jouer, c'est de la poésie.
Kimmich, ça doit être un brin meilleur qu'un milieu du PSG que les supporters estiment être dans le top 3 mondial. Juste Kimmich, c'est un nom, ça se dit comme ça, tu vois, on sait pas bien, machin. Et quand on regarde le foot comme ça, on voit à quel point, quand même, l'équipe phare de notre Ligue 1 est en retard dans plein de secteurs de jeu. Voilà, c'est prenez conscience quand même de ça. Le milieu de terrain, je me permets cette parenthèse, le milieu de terrain du PSG, le milieu de terrain, c'est quand même un moteur dans une équipe. Ce milieu de terrain a beaucoup de retard. Ce secteur de jeu-là, il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Et ne serait-ce que là, ce sont deux mecs qui ne sont pas des stars internationales.
Non, non.
Mais Kimmich est un joueur extraordinaire. Non, mais, Thiago Alcantara, on le savait. Ça.
Ce soir, c'est
Kimmich,
pas,
il a pas fait le match, de, jamais.
Il a pas fait le match du siècle, mais les déplacements de Thomas Müller. Les déplacements pendant la rencontre de Thomas Müller, toujours au service de son collectif.
Tout le temps.
Il manque d'ailleurs de marquer un but de la tête par derrière qui s'écrase sur l'arrêt, si je me rappelle bien.
Petite déviation, et il essaie de la dévier moins, mais il peut pas.
Il fait les déplacements, il est toujours entre les lignes. C'est toujours pareil.
C'est toujours au service du collectif. C'est la grosse différence, moi, je trouve, avec les. Puisque tu veux faire la comparaison, Daniel, c'est que nous, et notamment si on parle du PSG, par exemple, on voit nos individualités qui veulent se sortir du lot avant le collectif. Tu n'y arrives pas comme ça, c'est pas possible. Et là, il y a des individualités, mais tu les vois pas à la limite. Mais tu t'en fous, c'est Gnabry... tout le temps au service du collectif. Et après, bah, comme par hasard, tu as un Gnabry. Le mec, c'est vraiment une grosse individualité, Gnabry. Comment il s'appelle? Lewandowski, c'est une grosse individualité. Mais ces mecs-là, après avoir donné tout pour le collectif, ils arrivent à tirer les marrons du feu. Ben, c'est comme ça qu'il faut prendre le match. Mais ouais.
Très longtemps que j'ai pas entendu cette expression.
Ouais. Et ben, je sais pas, excuse-moi.
En Bourgogne,
sur la passe de Lewandowski qui ouvre le but, enfin qui permet à
Gnabry.
Et bien, qui c'est qui saute pour éviter d'embêter la possibilité de Gnabry de marquer? Ben, c'est Thomas Müller. Et lorsqu'on voit, il fête le but comme si c'est lui qui avait marqué. Moi, je suis désolé, Thomas Müller, ce mec-là, va rester évidemment dans l'histoire du Bayern, puisqu'il a le nom.
Dans le football allemand.
Et dans le football allemand.
Il a tout gagné, Thomas Müller. Avec un a priori que beaucoup ont sur lui, sorte de limite même d'allure.
Bah oui, c'est le mec qui a le moins de style du football mondial.
Mais je suis
un mec. Moi, je sais pas. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé. C'est un type qui a été le grand, là. Tout fait, tout gagné.
Crunch. À chaque fois que je le vois jouer, il est intelligent, ce mec.
Ça, pour être intelligent, il est intelligent. Ça,
Julien, toi qui es toujours au stade, là, rentre un peu dans les détails sur Chelsea. Qu'est-ce qu'il leur manque, là?
Il leur manque un peu de talent, beaucoup de talent même peut-être, pour rivaliser avec ce genre d'équipe-là, avec ce niveau-là. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une équipe qui est en reconstruction, une équipe en transition, avec un jeune entraîneur pour qui tout ça c'est nouveau aussi. N'oublions pas que pour Lampard, tout ça c'est très nouveau. C'est nouveau pour Flick aussi, mais c'est aussi nouveau pour Lampard. Et Lampard n'a pas les joueurs que Flick a non plus sur le terrain pour contrôler un match, notamment dans les moments faibles. Ce qui a d'ailleurs été, c'est d'ailleurs un des défauts de cette jeune équipe de Chelsea et de Lampard, c'est que même en championnat, ils ont du mal parfois à contrôler ces moments faibles. Et dans ces moments faibles-là, comme on a vu notamment sur les deux buts de Gnabry en 3 minutes, en début de seconde période, ben voilà, tu coules. Et c'est vrai qu'il leur faut encore un peu de talent, il faut qu'ils s'aguerrissent tous, notamment les jeunes et notamment Lampard. Mais il faudra aussi recruter. Quand tu laisses partir un Eden Hazard, même s'il n'y a pas de saison pour lui au Real Madrid, mais quand tu perds Eden Hazard et que tu le remplaces pas finalement, c'est vrai que c'est quand même très compliqué après pour la suite. Mais c'est une équipe qui va devenir sûrement ou redevenir à un moment une grosse équipe ici en Angleterre.
Ça prendra du temps. Je pense qu'il y a matière.
C'est beaucoup d'expérience.
Ouais, moi je suis d'accord. C'est beaucoup d'expérience qui leur manque parce que Juju, si je me souviens bien, à 0-0, ils ont deux grosses occasions. C'est Neuer qui fait les arrêts.
Tout à fait. Celle sur Alonso en fin de première période notamment.
Ouais. Et encore une individualité qui se font dans un collectif parce que on parle même pas des arrêts de Neuer à des moments déterminants. Parce que 1-0 pour Chelsea, c'est plus la même.
Non, mais tu peux aussi être à 0-2. Hein, à ce moment-là, parce que Lewandowski, il a aussi de grosses occasions avant.
Ouais, mais tu y es pas, quoi. Il y a eu quoi? Il y a eu Lewandowski, là, c'est la barre? Non, mais c'est Müller.
La barre de Müller et les deux grosses occasions de Lewandowski que Caballero sort. Voilà. De toute façon, ils sont moins forts.
Un match comme ça, quand t'as de l'expérience, à la limite, quand les autres n'arrivent pas à marquer, toi, tu dois tuer le match. Et eux n'ont pas su le faire. Alors que derrière, les Thomas Müller, Lewandowski et Gnabry, eux savent le faire parce qu'ils ont l'habitude, parce que c'est. Il y a la gestion des émotions. Ils savent gérer ces grands matchs.
Merci Julien. Non,
sinon je suis mauvaise langue.
Ah, ça c'est pour
d'aujourd'hui. Oh. C'est pas d'aujourd'hui, mais j'aime.
Mais là
le corriger.
Tu l'as fait.
Voilà. Saint-Etienne et Rennes avaient fait des offres pour Davis.
Ah.
À combien, tu vois? 5-6 millions.
Ah bah oui, c'était pas assez.
Ouais, mais c'était pas assez. Et
Saint-Etienne
et Rennes. Et effectivement.
Bon, en même temps, quand t'as le choix entre le Bayern et Saint-Etienne de Rennes,
c'est un recrutement assez rare.
J'ai un exemple.
C'était déjà pas mal d'argent, 5-6 millions pour un club français.
C'est bien.
On était sur le coup. Bravo.
Mais ça aussi, quand même. Ça me fait penser à Milik. Vous savez, l'international polonais. Saint-Etienne était aussi dessus. Sauf que t'as les Leverkusen qui débarquent. Donc, au bout d'un moment, ça devient compliqué d'avoir ces joueurs-là.
Donc voilà. Non, mais moi déjà ça me rassure qu'on ait l'œil dessus, ça me fait plaisir.
Alors
moi,
je suis en train de me poser la question. Je voulais remercier Julien.
Je pense qu'ils y étaient comme attaquants, mais comme le Bayern.
Bonne soirée Julien, merci.
Merci les gars, demain.
Juste mauvaise langue. Les gens attendent de savoir si Saint-Etienne s'intéresse à un tel ou un tel, et après vont les recruter.
Est-ce que Saint-Etienne aurait pensé à le replacer au poste d'arrière gauche?
Ah mais ça, là, c'est autre chose, les gars. Déjà,
tu reconnais.
Non, déjà savoir qu'on est dessus et tout, moi déjà ça me fait plaisir. Et voilà.
On a avec
évidemment
Julien au 32-16.
Et d'un grand personnage du football français que tout le monde connaît.
Ah très bien.
Hein, je pense que...
Ton copain?
Un grand personnage du football français.
Bah Bruno quoi.
Voilà.
Bah oui, l'homme qui sait tout.
L'homme qui connaît tous les joueurs sur la planète.
Salut Julien.
Allô?
Oui, bonsoir Julien, on t'entend.
Oui, bonsoir à tous.
Salut Julien.
Alors tiens Julien, avant qu'on te donne la parole, on va écouter Benjamin Pavard, interrogé il y a quelques instants à la sortie du match, l'international français.
Benjamin, c'est une véritable démonstration de force du Bayern ce soir ici à Chelsea. Oui, après, en première mi-temps, ils ont eu quelques opportunités aussi. C'est surtout en deuxième mi-temps, on a fait le boulot. Mais c'est vrai que voilà, on est monté en puissance dans ce match. Et voilà, je pense de l'extérieur aussi, vous l'avez remarqué. Voilà, notre force, c'est le collectif. On défend tous ensemble, on attaque tous ensemble. Donc voilà, c'est un premier match, on a gagné. Mais aussi le match retour, il ne faut pas voilà, se croire déjà en quart de finale.
3-0, ça vous laisse quand même... envisager ce match retour avec beaucoup de confiance. Vous avez clairement un pied en quart de finale.
Oui, c'est sûr que 3-0 à Chelsea, c'est pas toutes les équipes qui vont venir ici mettre 3-0. Mais après, il y a un match retour. Dans le football, tout est possible. On l'a déjà vu dans l'année dernière, il y a eu des remontadas aussi. Donc voilà, dans le football, ça va vite d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, là, on va savourer. Après, on a des matchs qui vont vite arriver. Voilà, tous les 3 jours, on va enchaîner. Donc il va falloir bien se reposer. Et puis après, il y aura le match retour. Mais on a le temps d'y penser d'ici là.
Bon, je pense qu'il peut être relativement tranquille. Hein.
Oui, tranquille.
Là, je pense que là, c'est réglé. Bon, Julien.
Je crois qu'il écoutait l'after juste avant.
Toi qui es supporter du Bayern, est-ce que tu as été étonné par la prestation du soir de ton équipe ?
Non, j'en avais parlé avec Polo. Chelsea, c'est du niveau Europa League. Sans manquer de respect, c'est vrai que c'est quand même un petit peu léger. Donc en plus ça, on a été vraiment très très bon un petit peu partout, sauf Coman qui a pas été exceptionnel du tout, hein, en dehors de sa blessure bien entendu.
C'est une rechute à Coman.
Un petit claquage.
C'est chronique.
C'est dingue, lui. Hein.
Ouais, mais enfin.
Au bout d'un moment, c'est quand t'es ça. Autant blessé, c'est qu'il y a un souci quelque part.
Ah oui.
Faut pas s'étonner s'il y a des rumeurs de joueurs qui arrivent à son poste au bout d'un moment. Tu peux pas, aussi talentueux soit-il, même si, encore une fois, moi, je sors de la génération Robben Ribéry et j'ai pas envie de gonfler plus que ça Gnabry et Coman. Tu peux pas partir avec un joueur, même s'il part théoriquement titulaire au départ, qui risque de ne jouer qu'un trimestre ou 6 mois, quoi, maximum. Mmh.
Voilà, Davis, excellent évidemment. En plus, ce qui est bien, c'est que quand on le voit, on voit pas beaucoup Pavard. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa ça. C'est la vérité. Et sinon, moi je voudrais quand même parler de Lewandowski, parce que j'en ai parlé avec Daniel. En fait, Lewandowski, il a fait quand même une belle deuxième mi-temps, il n'y a rien à dire, il est impliqué sur les deux buts de Gnabry. Mais Lewandowski, il ouvre jamais le score en fait. Et alors évidemment en championnat il le fait.
Ah, c'est lui qui donne la balle
dans le coup. Il est quand même dans le début. Putain, t'es sévère. Il est quand même dans le coup. Hein.
Bah ouais, mais je vais m'expliquer en fait. Je vais juste m'expliquer. Lewandowski en championnat il marque tout le temps et puis il ouvre bien le score, donc ça y a pas de problème. Mais psychologiquement en championnat c'est pas très grave parce que la saison est longue. T'as moins de pression. Par contre, moi, je parle des moments où il sait que s'il marque pas, son club sera en difficulté, sera peut-être éliminé. Et on a vu en première mi-temps, il a encore gâché 2 occasions. Le problème, c'est que Lewandowski, c'est constamment ça depuis qu'il est au Bayern dans les matchs allés. Moi, j'ai fait les stats parce qu'on parle quand même de 9, donc on va parler des stats. Il a fait 11 matchs à élimination directe, 11 matchs allés, 10 fois titulaire. Il a marqué 4 buts, dont celui de ce soir. Hein. Donc, il a marqué un but contre Arsenal dans une victoire 3-1 et 2 contre Besiktas quand il y avait 3-0 au score. Alors, je reconnais qu'il avait été bon à Turin en 2016. Voilà. Mais sinon, il ne met jamais le Bayern dans le confort de marquer. Évidemment que dans le jeu, il est fort. On parle d'un joueur.
C'est important
complet.
Quand même. Son travail est vachement utile à l'équipe.
Bien
tu
sûr,
trouves pas
ça, que
ses remises, sa fixation, c'est.
Mais ça, évidemment, on en parle. On sait
je suis
complet,
pas sûr que les stats que tu nous donnes qui sont intéressantes soient. C'est différente pour un joueur comme Firmino ou tu vois ce genre d'avant-centre qui sont également très utiles aux équipes et qui travaillent pour le collectif, non?
Évidemment, mais en plus je le fais ce soir parce que ce soir il a été plutôt bon en deuxième, il a été très très bon en deuxième mi-temps, il a été impliqué. Ce que je veux dire, c'est que marquer là on va se qualifier, c'est une évidence. Donc on va se retrouver en quart de finale. Moi, ce que j'attends, c'est un quart de finale aller pour pas être paniqué au retour comme à chaque fois on l'est, soit en étendu, soit là on s'est simplement. C'est la tasse, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Maintenant, honnêtement, je pense que le Bayern font des favoris parce qu'en plus, cette année, en Ligue des Champions, il n'y a pas de méga favoris. Voilà, puis tout le monde se vaut plus ou moins. Il n'y a pas de monstre, Liverpool, oui, mais...
Ah, attends, parce que là, tu parles sur Lewandowski, j'aimerais que Polo donne son avis.
Moi, si tu veux, encore une fois, enfin, il y a cinq minutes, on parlait du collectif du Bayern, donc j'ai pas spécialement envie de sortir Lewandowski. N'oublions pas que sur la dernière décennie, c'est le troisième meilleur buteur de l'ensemble des championnats européens, derrière les deux monstres, hein, que sont Cristiano Ronaldo et Messi. Donc moi, je veux bien qu'on me dise qu'il est pas décisif, qu'il est pas ceci. C'est vrai qu'il a aussi relativement peu marqué en huitième de finale, parce qu'on est toujours en train de ressasser son quadruplé contre le Real qui commence à dater. Mais encore une fois, il y a des travails d'équipe. Moi, je veux dire, si Lewandowski marque pas et que ça permet de décaler Gnabry,
oui,
ou si Thomas Müller trouve les intervalles et ça, j'en ai strictement rien à faire de, et en plus, il y a l'évolution d'un attaquant aussi, parce que Lewandowski, moi, je me rappelle lorsqu'il était à Dortmund, il jouait en 9,5, il jouait derrière Lucas Barrios. Donc, toutes ces choses-là font que, si tu veux, quand tu es une grande équipe et que t'as Lewandowski en face, je suis désolé, t'as peur. Tu peux dire ce que tu veux. Les statistiques, on me dit, ah oui, mais il n'a pas marqué ceci,
oui,
pas marqué
ça. Gros joueur à prendre.
Mais moi, c'est un collectif que je veux ressortir, et j'ai presque envie de dire, excepté encore le grand Gerd Müller, mais, le Bayern, ça, pour moi, ça a toujours été plus un collectif que de sortir une individualité comme ça, même si tous les grands noms du football allemand sont passés par le Bayern, etc. Donc, je comprends ce que dit Julien, mais moi, si tu, encore une fois, je suis presque content, en fait, que la génération, en fait, Ronaldo Messi, entre guillemets, va s'éliminer de petit à petit. Et je me demande si on va pas reparler, en fait, d'équipe avec peut-être moins de talent, mais justement, où c'est l'impact, où c'est la priorité du collectif qui fait que,
voilà.
Je dirais la même
mais
chose.
Par exemple,
Paulo Breitner, milite pour le retour du collectivisme dans le football. Et évidemment, ça lui correspond.
Non, mais dans l'impact, Thomas Müller, par exemple, Flick l'a vraiment bien lancé, il est bien revenu, il a quand même connu, il faut bien le reconnaître.
Il a une période noire. Hein.
Oui, et puis elle n'a pas duré deux mois, elle a duré vraiment longtemps. Là, il revient bien. Et justement, je trouve que dans l'impact, voilà, lui, on sait qu'il il ne vit pas par le but. Lewandowski, malgré tout, et je suis d'accord avec Polo, évidemment, que il a un petit peu évolué dans son style de jeu, ça reste quand même le 9. C'est-à-dire que c'est celui qui doit claquer à un moment. Et le problème, c'est que s'il claque pas, voilà, là, évidemment, Gnabry fait du bien. Là, en plus, Müller, bah, il rate la tête, franchement, ça peut le faire. Mais moi, j'attends le match où, justement, ils seront peut-être un petit peu en dessous. Il faudra que ce soit Lewandowski qui monte de niveau. Et je sais pas si c'est possible. Moi, je pense qu'en quart de finale, voilà, j'attends de voir. Moi, toujours
toi,
le
Julien,
match
ce que tu lui reproches, c'est de pas claquer, mais en premier.
Mais oui, parce que en fait, c'est ouvrir le score, ça retire énormément de complexes. En plus, on l'a bien vu, dès qu'on claque, dès que le Bayern claque, dès qu'on claque, on enchaîne. On l'a vu à Tottenham, on le voit en Bundesliga. On est comme ça. C'est voilà, c'est débloquer les situations, c'est ce qu'il y a de plus dur.
Ouais, mais il fait claquer.
Merci Julien.
Voilà. Eh ben, bonne soirée à vous.
Salut, à bientôt dans l'after. Ouais. J'aimerais juste quand même, avant qu'on passe à l'autre match, qu'est-ce que tu penses de Neuer, Lionel?
Écoute, moi j'ai trouvé, je le disais tout à l'heure, déterminant. On n'en a pas parlé beaucoup, mais dans cette première mi-temps, il y a ces occasions de Chelsea. Il a des 1 contre 1, mais plein axe. C'est pas non plus des 1 contre 1 sur un côté ou quoi, où il bouge pas. Il est sorti à 2000.
Il est bon.
C'est un des. Alors je dirais peut-être pas. Je le mettrais peut-être pas dans les trois premiers mondiaux maintenant, mais il est dans les 5 mondiaux.
C'est qui dans les 3 alors?
Moi, j'avais mis au Black. Qu'est-ce que j'avais mis
encore aujourd'hui au Black?
Au Black, je pense.
Ter Stegen, au Black.
Et puis troisième. Alisson. Voilà, c'était mon troisième. C'était mes trois. Mais ce soir, alors, ce qu'on se rend pas compte, c'est que quand on est face à un mec comme Neuer qui sort à 2000 à l'heure, plein axe, que t'as la balle dans les pieds et que tu vois ce monstre qui bouge pas, qui est devant toi, la cage. Même les meilleurs attaquants, ils doivent se dire putain, c'est un but de hand que j'en fais. Mais je la mets où? Qu'est-ce qui se passe?
T'as vu cette action où il sort le ballon en mettant le bras à l'envers comme ça là?
Mais tu sais pourquoi?
En mettant le bras comme ça.
Tu sais que pourquoi?
À la radio, c'est difficile à expliquer.
La manche.
Non, oui, mais en fait, il rentre le bras.
Est-ce que tu sais pourquoi il fait ça?
Vas-y,
parce qu'en fait, quand il récupère la balle, parce qu'il veut la bloquer directement, il peut la relancer directement.
Il est sûr. Mais sauf que là, il la récupère pas.
Pardon?
Ah, il peut pas la récupérer comme ça.
Il a sorti la balle,
mais en fait, c'est son geste.
Mais il la sort, mais.
On voit bien que c'est une technique de prise. Et en même temps, s'il a pas bloqué directement. C'est une technique de prise.
Et en plus, quand
c'est bloqué, en fait, il a raté la prise.
Non, mais attends, Gilbert, je voudrais rappeler aux auditeurs, les anciens.
C'est un monstre.
Mais
j'ai pas dit qu'il était mauvais.
C'est un monstre,
Et en plus, il revient d'une période aussi, pareil. Oui, une période très compliquée où il était.
J'ai juste raconté une anecdote qui date de plus de 10 ans. C'était Gilbert.
Je t'ai pas
dit. Oui.
Pour mon premier after ici. Je sors
c'est il y a 10 ans déjà.
Oui, c'était bah, en 2009.
Attention, il va balancer du bas.
Toi, tu me mets un coup de vieux là.
Il sort du gars. Bon, de toute façon, hein, les gardiens allemands, on sait très bien, ils savent pas bloquer les ballons. Donc,
bah, c'est vrai.
Tu as dit ça. Mais tu dis ça si c'était Manuel Neuer. Mais non,
mais ça n'est pas de Neuer un gardien bidon.
Mais il y en a plus des gardiens qui bloquent.
C'est une école. Ils apprennent plus à bloquer les ballons.
Dis-lui à Gilbert, il nous fait chier avec ça tout le temps. Dis-lui. Mais il peut lui dire, Lionel. Les gardiens qui bloquent les ballons, c'est fini. Ça me contrarie.
Oui, ça me contrarie. Pourquoi est-ce qu'il, pourquoi c'est fini?
Non, non, mais moi aussi,
fini,
parce que je pense que c'est la nature de, même du ballon, la matière du ballon qui
a,
fait qu'on peut plus
le faire. Il y a ça, il y a ça, il y a aussi.
Il bloquait les ballons sans gants.
Mais c'était plus les mêmes ballons.
Non, mais il y a des moments où il pourrait les bloquer.
Non, mais arrête de bloquer dessus.
Il bloquait sans gants.
Il y a des moments où il pourrait les bloquer.
Oliver Kahn, il bloque pas les ballons. Mais quatre fois meilleur gardien élu. Ouais, comme tu, il garde pas les ballons. En 96, élu meilleur gardien du monde.
J'aurais pas dû les bloquer.
Non, mais excuse-moi, vous avez fait de gardiens de hand des gardiens de foot. Bravo, très bien, ils sont bons les mecs.
Mais les gardiens, c'est une tradition extraordinaire.
Il y a deux écoles extraordinaires.
Il y a une évolution dans la
gardien et allemand et dans la technique.
Laissez parler les spécialistes.
On va se faire engueuler par Lionel. Il y a deux traditions, il y a deux pays pour les gardiens. C'est les Italiens.
Les gardiens et les Italiens et Allemands, ouais, c'était ça, bien sûr.
Bah, je préfère
c'est
les Italiens.
Mais j'aurais mis les Italiens en premier, les Allemands en deuxième, mais ça, c'est par culture, ouais, je pense.
Oui, oui,
après, t'as une évolution. Si tu veux, Polo.
Daniel a raison. Non, mais Daniel a raison, de par ce nouveau ballon qui a complètement changé la donne. C'est-à-dire que c'est un ballon maintenant qui vole énormément. Déjà, avant, ça volait.
Absolument.
Avant, t'avais des ballons qui étaient des tangos, ça s'appelait les ballons. Ça volait pas. C'était, on attendait que ça, d'aller de jouer avec un ballon tango. C'était génial. Génial, tu pouvais les bloquer. Maintenant,
les ballons anglais à l'époque, et tu te souviens, ils étaient un peu plus légers,
mais c'était déjà un peu
le
ça.
Le ballon de Batney à Anfield contre Ray Clemens.
Maintenant, avec ces ballons qui volent, c'est magnifique. Vrai que les gardiens, t'as plus envie de les bloquer de part parce que si tu le bloques et que tu le réchappes à 2 mètres, ça va tellement vite que tu te prends un but. Donc les gars, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une nouvelle technique qui est arrivée, c'est-à-dire qu'ils vont dévier loin sur un côté, éviter les corners et plutôt essayer de dévier en touche. C'est une nouvelle technique qui est arrivée. Mais je crois qu'on en abuse, et je suis d'accord avec toi. Il y a des moments, savoir bloquer un bon ballon pour avoir une première relance.
Et ne pas remettre dans la merde ton équipe, parce que c'est ça qui arrive souvent en fait.
Parce que tu les prends à revers.
Bah oui. Jamais...
Mais si tu les dévies, maintenant c'est quand même bien dévié.
Ce soir, il y en a une qui repousse, ça donne un tir de Chelsea derrière.
Bah ouais, mais vous pouvez peut-être pas la bloquer.
Je sais pas, Roland, et puis vous faites un petit after gardien ensemble et tout.
Non, mais ça, j'ai fait avec Lionel. Lionel, en une saison, il a bloqué plus de ballons que Neuer dans toute sa carrière. Bravo, Lionel. Allez, dans quelques instants, on parle de l'autre match. Merci, Polo.
Merci, il y avait des frappes.
Bonne soirée. Dans quelques instants, Fred Hermel nous rejoint, Simone Rovera pour débriefer le match Naples-Barcelone, un partout. Et puis on parlera de Lyon avant minuit, bien sûr, les infos avant le match de demain face à la Juve. À tout de suite dans l'after.
RMC, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là avec Lionel Charbonnier, avec Daniel Riolo, et on parle Ligue des Champions, bien sûr, ce soir. Naples-Barcelone désormais au programme, avec Fred Hermel qui nous rejoint. Fredo, bonsoir.
Hola, chicos.
Et avec Simone Rovera qui est au stade à Naples. Salut, Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir. Comment ça va?
Ça va, la santé, Simone?
Bah, écoute, la santé, ça va très bien.
Bon, très bien.
Fais attention, non, un peu, tous pas trop.
Je rigole, mais je vais très bien.
Bon.
C'est un plaisir de vous voir demain à Lyon.
Ah, tu viens?
Bah, bien sûr.
Ah, on te laisse rentrer.
Bah, si vous voulez, si on me fait.
Bon, déjà, on va te mettre le
partir. Si on me fait descendre de l'avion, si on me fait rentrer dans les stades, là, j'ai vu qu'il y a les mairies qui ne veulent pas les supporters italiens. Pour l'instant, il n'y a pas un communiqué contre les journalistes italiens.
Tout va
donc,
bien, hein, pour l'instant, tout est heureux. Les spectateurs reviendront à Lyon, on en parlera tout à l'heure. Alors, avant de parler du match, un petit préambule. Écoutons Griezmann, il a marqué ce soir. Et d'ailleurs, il intègre le top 5 des Français buteurs en Coupe d'Europe.
Très bien, tant mieux pour lui.
Voilà.
Et le premier, c'est qui?
Benzema, c'est
lui. Ah oui, c'est ensuite. Je disais aussi, ouais.
Qui est
bien
ensuite
sûr, c'est Benzema.
Et qui est ensuite? Dites-moi qui est ensuite.
Thierry Henry.
Oui, et ensuite? Ah, moins facile après.
Les Français?
Ouais.
Giroud, il est dedans?
Il y en a un qui ne joue plus, qui a été Ballon d'Or.
Zidane.
Jean-Pierre Papin.
Ah oui, bien sûr.
Benzema, 64 buts. Thierry Henry, 58. Papin, 38. Trezeguet, 35. Griezmann, 29 désormais. Mm-hmm. Un but de plus que Platini et Gamero. Mm-hmm. Bref. Bon, voilà.
Ah, Gamero?
Après, faut faire attention. Mais Gamero, c'était en Coupe d'Europe, c'était en Ligue Europa. Ouais. Il a beaucoup marqué.
Et puis t'as des époques aussi où tu jouais 3 matchs par an. Et d'autres,
Platini, il n'y avait pas de poule. Hein.
Et puis Papin, ouais, pareil, il y avait moins de matchs aussi. Et là, maintenant, quand t'as phase de poule et compagnie, il y a plus d'occasions d'en mettre. Hein.
On écoute Griezmann et ensuite on parle du match ensemble.
Est-ce que vous n'êtes pas un peu le cache-misère du Barça ce soir, Antoine?
C'est quoi ça?
C'est-à-dire un peu, est-ce que votre but, il a pas un peu sauvé?
C'est quoi ça?
Il a, on va dire que ce but a un peu sauvé le FC Barcelone parce qu'on n'a pas vu une très grande performance du Barça ce soir.
Ouais, la première mi-temps, je crois, on n'a pas eu d'occasion ou de tir au but. Après, c'était difficile parce que j'ai pas pu faire des appels en profondeur. La deuxième mi-temps, j'avais plus d'espace, donc c'était un peu plus simple. Mais ouais, c'est on est venu pour gagner, mais voilà, c'est tant pis. Maintenant, il y aura le match retour à la maison où ça sera complètement différent avec un terrain plus grand, plus d'espace. Voilà.
Antoine, on n'a pas retrouvé le tiki-taka du Barça depuis quelques mois. Il y a une volonté de se chercher encore entre vous, entre Lionel Messi et vous. Pas encore facilement et pas encore d'espace pour l'attaque du Barça. Comment faire pour améliorer très vite ces relations?
Non, c'est compliqué parce que lui, il est surtout ce soir, il est plus à droite, moi plus à gauche. Donc c'est assez compliqué pour se trouver. Mais après, quand je joue dans l'axe, on essaye de faire des 1-2, de moi faire des appels en profondeur parce que c'est mon job maintenant au Barça. Donc voilà, on essaye de travailler ça et moi de m'adapter un peu à l'équipe.
Voilà, Griezmann. Petit piège, tiens. Vous savez que le Barça a une particularité. On se concentre toujours sur les équipes qui courent. Ces derniers temps, c'est les stats quand même qui sont assez révélatrices. Bon. Et avant cette semaine de Ligue des Champions, c'était le PSG qui avait le moins couru. Et bien, figurez-vous que le Barça a moins couru que le PSG ce soir.
101 km, c'est ça?
Oui.
Franchement, ça se. Déjà, traditionnellement, même dans leur grande époque, Barça courait pas des masses.
C'est le ballon qui courait. Voilà.
T'as pas la stat en première mi-temps, parce que vraiment, en première mi-temps, ils ont vraiment pas couru.
J'ai pas le détail. On peut chercher.
Le match, mi-temps, ils ont rien foutu.
Le match du Barça est terne. Et une équipe un peu plus forte que Naples, ce soir, je pense, battait le Barça et le mettait dans l'obligation d'une remontée au retour. Le Barça était faible, sans tir avec ce match nul qui est au final un bon résultat. Je ne sais pas si Naples aurait pu plus bousculer, ils sont quand même assez limités les Napolitains, ils ont eu des occasions, mais un type comme Calleron, c'est un bon joueur mais pas un grand joueur, donc quand il rate, Mertens blessé, ça a un peu déséquilibré l'équipe.
Beaucoup.
parce qu'il gênait pas mal Busquets dans la première passe et là d'un coup ça a changé. Oui, Naples peut avoir quelques regrets. Je sais pas de quel ordre, est-ce que c'est d'un 2-1, d'un 2-0, c'est un peu difficile de supputer ce qui aurait pu se passer avec
d'un 2-0, enfin
peut-être pas, franchement, c'est peut-être une bêtise.
Moi là où je suis un peu inquiet pour le Barça par rapport à cette rencontre, c'est que Naples c'est pas grandiose non plus.
C'est ce que je dis,
ça, tu vois, donc c'est
au final, t'es pas inquiet par l'effectif qu'ils vont avoir là.
Le Barça?
Ouais.
Ah bah au moment où on se parle,
il va manquer du monde au retour.
11 joueurs titulaires pour la semaine prochaine, dans 3 semaines.
C'est doux.
C'est-à-dire qu'entre les blessés, les suspendus, il y en a que 11. Écoute,
déjà pour dimanche,
ça c'est quelque chose que je dis dans l'after depuis 2 mois, en disant que le grand problème du Barça cette saison, enfin ces deux prochains mois,
en plus qu'ils
c'est
le manque d'effectifs. Ils étaient obligés de vendre.
Ils étaient obligés de vendre, ouais, exactement. Ouais. Ils ont vendu des joueurs importants, qui auraient pu être importants maintenant puisqu'il y a pas blessé, comme Alagna, comme Carlos Pérez.
Ils mettent de côté les 200 millions pour Neymar au mois de juin. Hein.
Bah oui.
Bah non, c'est vrai. Ils vont essayer.
Mais le Barça a tellement de problèmes d'argent.
Il va falloir qu'il gratte. Hein.
Que déjà, le groupe professionnel, c'est 15 joueurs. Mais avec les blessés, je pense, lui, il en reste 11. Donc ils vont, tu regardais le banc du Barça ce soir, ça faisait peur quand même, tu vois. Donc, il y avait des noms que tu connaissais pas. Donc, oui, moi, ce qui m'inquiète pour le Barça, au-delà de ce match, c'est justement cette question d'effectif. Je vois pas comment ils peuvent lutter sur les deux tableaux, la Liga, où c'est quand même très serré, et la Ligue des Champions avec si peu de joueurs.
C'est difficile d'envisager le Barça loin en Ligue des Champions. Franchement, j'ai un petit peu de mal à y croire.
Bah, tu sais, excuse-moi de te couper, mais c'est Messi qui le dit. Messi a dit la semaine dernière dans Sport qu'avec ce qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas envisager gagner la Ligue des Champions. C'est ce qu'il a dit Messi la semaine dernière. Pour conforter ce que tu dis. Pour conforter ce que Messi aussi le dit.
Ah, t'avais envie de dire que Messi me donnait raison.
Voilà. Exactement. Ou toi donner raison à Messi.
Messi a dit j'ai écouté Daniel Riolo. Je suis d'accord.
Non, mais c'est pour dire que c'est terrible. C'est pas simplement parce qu'après il y a des gens qui vont nous dire vous êtes en dit par ça. Non, c'est Messi qui dit a dit hoy no da pa esto. Ça veut dire là au moment où je vous parle, on n'a pas ce qu'il faut pour gagner avec des champions.
C'est difficile de l'envisager.
On n'a pas ce qu'il faut. Voilà.
Tiens, Simonet, toi qui étais au stade. Là, comment t'as trouvé le Barça avant de parler de Naples?
J'ai trouvé un Barça vraiment
aux limites de la présentable. C'est-à-dire, il a eu plein de possessions, mais on voyait qu'il ne savait pas quoi faire. C'est un mérite, bien sûr, de Napoli qui a bien défendu. Ouais. Napoli avait bien préparé ses matchs et Gattuso avait bien expliqué, même en conférence de presse, quelle était un peu son idée sur la gestion du ballon et du sans-ballon. Mais après, Barça, vraiment, on avait l'impression que parfois, elle pouvait accélérer. Mais il y avait, oui, peu d'espace, mais aussi un peu moins d'envie de ce qu'il faudrait pour dribbler, accélérer, supérer un adversaire. Je pense que Barça, à la fin du match, a fait un dribble en plus de Napoli dans les stats que j'avais vus juste avant de descendre à bord pelouse. Et sincèrement, Barça a certains, à Messi, à Griezmann, à des joueurs qui peuvent dribbler un peu plus que les joueurs de Naples. Sincèrement, j'étais très déçu pour Barça. Et quand Daniel te disait que Naples peut regretter de ne pas avoir gagné ces matchs 2-1 ou peut-être 2-0.
Après,
moi, sur les 2-0,
je
peux même penser.
Est-ce qu'ils ont pris assez de risques pour aller le gagner? Ils étaient quand même un peu, notamment sur la
position. Est-ce qu'ils ont pris plus de risques?
Absolument, c'est une affaire d'équilibre.
Ils n'ont pas pris de risques.
Tu veux dans ton déséquilibre et dans ta prise de risque.
Exactement.
J'imagine.
Mais combien d'occasions a eu les Barça? C'est-à-dire, au-delà du but?
Aucune.
Et déjà, le but, c'est.
Aucune. Je pense que. Non, mais les intentions comptent. Je me trompe peut-être, mais j'imagine une équipe comme celle qu'on a vue la semaine dernière de l'Atalanta, je pense, aurait pu faire plus mal au Barça
bien
ce
sûr.
Soir.
Avec l'enthousiasme. Mais,
avec un pressing oui. plus haut, une réduction.
Ouais, mais là ouais. Rino, il a joué avec son plan de jeu. Moi, j'ai trouvé très bon, honnêtement. Parce que.
Ouais, alors, mais, on va oui, aussi. Mais passe, parce qu'on oui, dit... passe peut-être à côté de quelque chose avec ce plan-là aussi.
Je suis pas
mais
certain.
Mais bien sûr, mais Daniel, l'Atalanta, ça fait 4 ans qu'ils jouent ensemble. Gasperini, ça fait des années qui fait un certain type de jeu. Gattuso, il est arrivé il y a un mois et demi. Il a pris une équipe qui était presque dans la deuxième partie des classements. Il a redressé la barre avec 6 victoires sur les 7 derniers matchs en championnat. Aujourd'hui, je pense que c'était difficile de demander un peu plus en Napoli, même si je suis sûr qu'en deuxième mi-temps, quand ils ont vu qu'il y avait des espaces, qu'Insigne arrivait dans la surface, l'occasion de Caleone, ils ont peu regretté peut-être leur intention de défendre. Mais au final, personne au jour du tirage imaginait que ce match terminait un partout avec un équilibre qui était un peu plus en faveur du Napoli, on peut dire. Mais plutôt, on aurait pensé en 0-5, 0-6, 0-4. Donc, Naples peut être très content de sa prestation et avoir des regrets.
Lionel, tu voulais parler donc de Gattuso?
Oui, parce que je trouve qu'il a très bien lu le jeu du Barça. Il a mis un plan de jeu qui tenait vraiment la route. Son discours passe super bien. Moi, je me souviens d'Insigne qui voulait jamais défendre quand il y avait un autre entraîneur à la tête, même du temps de Carlo. Il restait devant et ça passait pas. Là, j'ai vu Insigne défendre dans les 16 mètres, repartir à 200 à l'heure. Moi, j'ai écoute, franchement, moi pour moi c'est une belle copie parce que c'est pas le tout de défendre. En France aussi, on sait défendre. On est capable, je veux dire, de mettre un bloc bas et puis de défendre comme ça. La seule différence, c'est qu'en France, une équipe qui défend fait à peu près 20-25 fautes, va avoir contre lui, contre elle, cette équipe, 7-8 corners. Là, si je regarde, je ne sais même pas, peut-être ils ont eu un ou deux corners
Naples
en deuxième mi-temps.
Moins de fautes que Barça. Moins de fautes que Barça, moins de cartons de Barça, et les deux cartons sont pour contestation.
C'est même pas pour de faute de jeu. Exactement, à la 70e minute.
Naples a été parfaite dans sa défense, sauf sur une occasion. Et là, sur cette occasion, on peut regretter la sortie de Mertens parce que Busquets a pu lancer cette passe verticale. Et là, malheureusement, pour Naples, il n'y avait pas une défense bien en place.
Ouais. Il y a une stat qui moi, m'a époustouflé, c'est qu'à la 70e minute, après, j'ai pu regarder, il y avait 5 fautes contre Naples, 5 fautes. Ils ont défendu tout le match, ils ont fait 5 fautes. Ils ont dû obtenir un corner.
Je pense que ça termine à 7. C'est 7 fautes Naples, je viens de voir sur le tableau du San Paolo, et Barcelone a fait 11. Et c'est pas Nazar. Les buts de Barça arrivent combien de minutes après la sortie de Mertens?
Ouais,
c'est immédiat. Ils n'ont pas eu le temps vraiment de se réorganiser. Donc, je dis pas que c'est un cadeau du Napoli ce soir pour le Barça. Mais s'il y a une équipe vraiment qui aurait pu gagner et qui pour moi méritait de gagner ce soir, c'est Naples.
Ouais,
et personne ne pouvait imaginer ça hier. Je ne dis pas au moment du tirage.
Alors, on va accueillir Damien, il est supporter de Naples. Damien, bonsoir.
Bonsoir à toute l'équipe.
Salut Damien.
Bon, tu penses que ça aurait pu être mieux ce soir? Naples aurait pu faire mieux? Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que Naples peut avoir des regrets parce qu'on a vu que, comme vous le disiez, Gattuso a bien analysé le jeu et les intentions du Barça. Dans la profondeur, il y avait beaucoup d'aide pour procurer Naples, niveau vitesse. Ensuite, Mertens, voilà, il a il a marqué un but superbe. On a vu que Naples jouait tactiquement sur un plan défensif avec un 4-5-1 défensivement, et lorsqu'ils attaquaient et en contre-attaque, c'était un 4-3-3 avec Mertens, Calderon devant notamment, et Insigne. Puis ensuite voilà, ils ont su récupérer des ballons sur des pertes de balles, notamment sur le but de Mertens. Puis après il y a eu quelques occasions d'Insigne en deuxième période et de Calderon qui ont pêché dans la finition. Pour moi, ce qui a manqué, comme Daniel le disait, c'est dans la finition. C'est le Naples, ils ont pêché dans la finition. C'est ce qui aurait pu permettre à Naples d'espérer un 2-0 ou un 2-1, comme vous le dites depuis tout à l'heure. Mais voilà, je pense que Naples peut avoir des regrets, mais peuvent être satisfaits pour le match retour avec une belle copie pour un match retour. Parce que, voilà, honnêtement, Naples, il y a quelques mois, était dans un trou pas possible. Et là, ils ont gagné la Juve, ils ont gagné l'Inter, ils ont gagné la Lazio ces dernières semaines. Donc là, franchement, c'est une belle copie. Et puis avec le retour, voilà, c'est ça que Mertens, c'est pas si grave que ça, parce que franchement, il a manqué notamment quand
il est sorti. Ah oui, il faudra vraiment tout le monde si tu veux espérer aller te qualifier au Camp Nou.
Voilà.
Ouais,
enfin,
ça me semble compliqué. Il y aura Koulibaly de retour probablement. Attention, on parlait des absents de Barcelone.
Dans 3 semaines, Mertens.
Pour Naples, l'absence de Koulibaly, c'est quelque chose.
Je pense que tous les absents du côté Barça reviennent.
Non,
c'est pas fait.
Non, mais bon, Messi.
Merci Damien, en tout cas, merci.
Merci beaucoup.
Salut.
Ciao.
Fred.
Oui, Messi. Enfin, Messi a fait un match catastrophique. C'est le match où Messi a pas envie, je crois, qu'il a couru 2,6 km.
Tu parles de Messi, mais vous savez, Griezmann a touché 32 ballons. C'est la première fois qu'il en touche aussi peu dans un match de Coupe d'Europe.
Et en première période,
sur les 32, il a dû en prendre beaucoup en deuxième.
C'était 9, je crois.
Ouais, il a dû en prendre beaucoup en deuxième.
9 en première. C'était un truc catastrophique.
Je pense que c'est moins. En première, c'est 6.
6, t'as raison, pardon.
C'est 5 que 9 à l'envers. Au-dessus de la poignée. C'est tout le Barça en deuxième mi-temps qui est revenu avec d'autres intentions, notamment les attaquants. Ça a beaucoup plus bougé en première mi-temps. Mais franchement, je voudrais connaître le nombre de kilomètres qu'ils ont fait. Enfin, toute l'équipe, et notamment les attaquants, le nombre de kilomètres en 45 minutes. Franchement, ça va pas chez loin.
Tu sais, Lionel,
c'est pas normal. C'est pas normal.
Il y a une dose, même si ça ne me séduit pas. Il peut y avoir une dose de calcul parce que effectif très court, parce que classico dimanche soir.
Ça, tu m'enlèveras pas de l'idée qu'il y a le classico dimanche.
Et que Messi,
il s'économise.
Si tu lui dis, vous allez faire un partout, tu me fais un match à 20%, mais il te le signe, mais tout de suite.
Et ça, il sait faire.
Ouais, c'est vrai. C'est tout dosé. C'est tout dosé. Donc,
après, en jouant
tu disais au Barça, vous allez faire un partout à Naples. Vous vous cassez pas. Vu l'effectif que vous avez en ce moment, qui est très réduit, il y a le classico et on a le match retour à la maison.
Mais Daniel,
dans
tu
3
peux pas
semaines
calculer comme ça.
Pour le bar,
ils ont pas calculé comme ça. C'est
à
pas
un moment.
Mais
alors,
si, mais si tu fais
attends, l'ensemble
tu joues
de l'équipe, non, Lionel, l'ensemble de l'équipe, non, mais si
ouais,
quand tu le, ça se voit quand il a pas envie de jouer.
Ah oui, non,
et ce soir c'était
quand il s'économise,
quand il s'économise qu'il avait pas envie. Et puis il y a eu un élément important ce soir, c'est la blessure de Piqué. C'est-à-dire qu'il s'est tordu la cheville, ça sent, mais vraiment gravement, hein, ça sent l'entorse à vue de nez, et ça sent le.
Dans 3 semaines, ce sera là.
Le Barça. Oui, mais non, mais pour dimanche, qu'il y a le classico dimanche.
Le Barça est objectivement pas séduisant, mais ils sont leaders de la Liga avec le classico qui est le match
avec
de l'année pour eux, qui en 4 victoires les met dans une position idéale, partout à l'extérieur en 8e de Ligue des Champions.
Que veux-tu
On va conclure, les gars. On va conclure avec l'ancien sireur de pompe de Lionel Charbonnier, à savoir Gennaro Gattuso. Que je rappelle que Gattuso était le sireur de pompe de Lionel aux Glasgow Rangers quand il débutait, et que Lionel était un taulier des Glasgow Rangers.
Il est champion d'Europe, champion du monde.
Simonet, tu m'entends?
Toi aussi, tu me diras.
Bien sûr.
Je compte sur toi pour écouter attentivement et nous traduire ce que dit Gattuso. C'est parti.
Rimpianto si poteva potevamo portarla a casa con tanta, perché è vero che il Barcellona ha avuto un grande possesso,
on aurait pu gagner le match sterile, parce que Barça a eu de la possession de balle, mais était stérile. Sur le seul tir cadré, ils nous ont marqué un but. Et l'équipe, défensivement, a fait un super match. Les regrets, c'est d'avoir vu cette occasion avec Insigne et Calderon, qui étaient des occasions importantes. On a été bon, on n'a pas été bon à marquer. Mais là, on va penser au match face au Torino. Et après, on aura le temps de penser au match qu'on va jouer dans 3 semaines.
Voilà pour ce match.
Très simple, Gattuso. J'aime beaucoup ce type-là.
Oui, il est simple. Hein, c'est une personne très simple.
Et c'est pour ça qu'il est chouette et tout.
C'est un bon mec.
On est très amis. On a réussi à la mettre dedans.
On est très amis.
Merci, Simonet.
Un bon mec et très simple.
Ciao. À demain, les ragazzi.
C'est vraiment un football simple. C'est un football qui lui ressemble. franchement. Mmh. Et moi, quand je vois son équipe jouer, alors attention, parce que là, on les voit comme ça, mais Naples, c'est pas que du défensif, hein. En championnat, ça joue beaucoup plus offensif quand même, hein.
Fredo, merci également.
À demain, depuis la pelouse du stade Santiago Bernabéu.
Exactement.
Parce qu'aujourd'hui, c'est un amuse-bouche.
Ah, mais qui voyage.
Il est bon, lui. Bah oui, je retourne à la maison.
Salut, Fredo.
Adieu, Tico. Il y a un gros match.
Ouais.
Dans quelques instants, Lyon au programme.
C'est vrai, non, c'est vrai.
Mais tiens, écoutez bien, s'il vous plaît. RMC vous offre ce soir un cadeau exceptionnel. Et oui, vous le savez, on vous en a déjà parlé plusieurs fois, notamment la semaine dernière. On vous envoie tout frais payé assister à la finale de la Ligue des Champions. C'est le 30 mai prochain.
Istanbul.
Voilà, vol, hébergement. Istanbul. Place pour la finale, je dirais plutôt mission Istanbul. Vous pouvez remporter ce cadeau en envoyant dès maintenant finale par SMS au 732-16. Finale par SMS au 732-16. Allez-y. Voilà. Techniquement, il est toujours possible d'avoir un PSG Lyon en finale, hein, mais c'est juste technique. Allez, à tout de suite dans l'After.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Lionel Charbonnier et Daniel Riolo sont là. Lyon, les gars, au programme maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on a une idée assez précise de la compo de demain que nous a envoyé Loïc Braillet. On va la découvrir sur RMC Sport News. Rudy Garcia va, a priori, mettre une défense à 5, enfin à 3 ou 5, hein, selon les versions. Marçal, Denayer, Marcelo, et donc sur les côtés Dubois et Cornet. Voilà. Ensuite, Touzard, Aouar, et devant Dembélé, Toko et Kambi.
C'est ce qui était attendu.
Voilà.
Qu'est-ce qui te surprend ? Tu as l'air d'annoncer ça comme si c'était surprenant.
Non, je l'annonce.
Non, mais il y en a certains qui sont surpris par l'association de Touzard Aouar dans le milieu.
Par exemple ? Il aurait pu aussi choisir de faire une défense à 4. Voilà, bon.
Non, la défense à 3 dans l'axe,
franchement, ça ne me choque pas.
Il voulait, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux ? Il est très loin d'être favori, et c'est même tout le contraire contre la Juve. Il ne fera pas le jeu, il va surtout défendre. Essayer de voir s'il n'y a pas un truc à faire en contre avec des mecs rapides comme Cornet d'un côté en contre-attaque, Toko et Kambi, et ce genre de choses, et le plus possible qu'il pourra essayer de tenir le ballon par Aouar, et ça va pas être fréquent, voilà, hein, ils sont totalement outsiders sur cette affaire-là. Ouais. Il n'a pas une équipe qui est assez préparée.
J'attends
pour
de les
rivaliser.
Voir dans les positions de balle, lorsqu'ils vont avoir la balle de temps en temps, dans l'équilibre défensif avec Aouar et Touzard, comment ça va s'organiser entre si Aouar monte d'un cran, parce que je pense que c'est lui qui va se projeter.
Tu voulais qu'il mette à la place d'Aouar un autre défenseur.
Non, mais j'attends de voir l'animation. Ça me choque pas. Maintenant, c'est dans l'animation. Comment ça va s'animer quand Aouar va se projeter? Est-ce que Touzard va rester tout seul là? Est-ce que c'est le joueur du côté opposé qui va rentrer à la hauteur de...
Mais quelle animation ? Ils vont sortir à deux ou trois maxi quand il y a une balle de compte qui va se proposer.
Oh, t'as qu'une chance.
Ils vont tenter ce qui s'appelle une sorte de braquage.
Côté Juve, on a aussi l'équipe, hein. Szczęsny, Alexandro, Bonucci, De Ligt, Danilo, Bonucci qui d'ailleurs jouait le fameux match face à Lyon hier soir dans le quiz, je me suis fait arnaquer. Rabiot, Pjanic, Bettencourt ou Ramsey.
Ça t'arrive toi aussi alors de te faire arnaquer là-dessus, trouver moi aussi des joueurs qui...
Et puis devant Cristiano, Dybala et Cuadrado, voilà l'équipe annoncée demain. Côté
Rabiot, c'est béton armé.
Côté Juve. Rabiot, ouais, ça a l'air bien engagé.
On verra demain.
C'est ce qu'ils disent. Bon. Voilà les infos. Très déséquilibré, Lionel, pour toi ? Ou pas tant que ça ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Si, quand même, bien sûr.
Sur le papier, oui, quand tu vois l'effectif, ouais. Bien évidemment. Maintenant, moi, j'attends une chose des Lyonnais, c'est qu'ils jouent en équipe. Avec un public. Voilà, les deux choses que j'attends.
Il sorte un gros match au niveau du caractère. Il faut qu'il fasse.
Il faut mettre ses ingrédients dans les duels. Il va falloir jouer compact.
Dans l'idée de vouloir absolument gagner dès demain soir et de se dire qu'il y a le match retour. Donc, tu leur rentres dedans. Il y a beaucoup de si. Pour envisager la performance de Lyon.
C'est pas le dernier match qu'ils ont fait en championnat qui me dit.
Depuis le début de la saison, surtout dans
ce dispositif. Si je me souviens bien, ils étaient dans ce dispositif.
Mais il y a le bon résultat pour Lyon, c'est déjà de gagner le match. Tout autre résultat, évidemment, c'est compliqué. Après, déjà, si tu le gagnes, ce qui semble difficile à envisager, tu seras 100% satisfait. Non, est-ce que c'est possible? Je pense
tout est possible.
Ouais, mais il faut envisager la normale quand même.
Il faut envisager quelque chose.
Oui, oui, oui. Bien évidemment. Mais moi, j'attends une unité. J'aimerais voir ce Parc OL uni pour une fois derrière ces joueurs.
Je pense qu'il le sera. Les soirs comme ça, l'ambiance à Lyon, elle est bonne. Elle peut s'éteindre, mais comme dans tous les stades, si la Juve mène 2-0 à la mi-temps, bah oui, ça va s'éteindre forcément. Mais je pense que
mais c'est aussi aux joueurs
de sera à la hauteur.
C'est aux joueurs
de montrer le caractère que les mecs suivent derrière.
Exactement.
Deux trois infos pour conclure l'after les gars, vous dire que au Real Zidane dit aujourd'hui qu'il ne sait pas si Hazard rejouera cette saison. Je rappelle qu'il y a l'Euro quand même à la fin de la saison éventuellement pour les Belges et pour Hazard. Donc voilà, c'est une mauvaise nouvelle pour la Belgique. Lens donc vire Montagnier aujourd'hui. Il est arrivé en cours d'année dernière, il n'a pas réussi à faire monter. Alors pour l'instant, c'est l'entraîneur de la réserve qui s'appelle Franck Hez qui s'occupe de l'équipe première. Donc on ne sait pas pour combien de temps. Donc vraisemblablement, il semble tout de même chercher un coach à Lens. Donc
Lens qui reste largement dans la course à la montée.
Ah oui.
Donc un limogeage qui peut surprendre.
Tout à fait.
Sauf à savoir que de toute façon, le coach.
Sinon, Roussier quitte la présidence de Nancy.
Je comprends.
Roussier, il est resté un peu plus d'un an, hein, finalement, un an et demi, et hop, il s'en va lui aussi.
Il a fait un gros poste.
Ah bon ? Où ça ?
Roussier ?
Ouais.
Bah, Mediapro. C'est le patron de Mediapro.
Ah bon, c'est pour ça ?
Ah bah oui.
Ah d'accord, mais je ne savais pas.
Ah bah, je pensais ne pas te l'apprendre.
Très bien, mais tu donnes cette information, donc il va être à la tête de cette nouvelle chaîne, magnifique. Et puis, une petite info Qatari pour finir. Un juge français aujourd'hui, le juge Tournaire, a ouvert une enquête sur des accusations de travail forcé visant Vinci et sa filiale au Qatar dans le cadre de la construction des stades pour 2022. Et donc, les différentes associations... Sherpa et Comité contre l'esclavage moderne ont déposé une plainte, donc enquête en cours, pour réduction en servitude, traite des êtres humains, travail incompatible avec la dignité humaine, donc c'est assez lourd. Enquête en cours, donc ouverte en France concernant les conditions de travail au Qatar.
Pour faire condamner Vinci.
Exactement, et sa filiale Qatari. Voilà, donc affaire à suivre,
donc,
comme
Vinci,
on dit.
Entreprise française devant le droit français.
Exactement.
D'accord.
Lionel, merci beaucoup.
De rien, les copains.
Continuez d'envoyer finale par SMS au 732 pour gagner votre place pour la finale de la Ligue des Champions. Continuez également de télécharger les podcasts de l'After, podcast Paris, podcast Marseille, podcast Lyon, podcast Saint-Etienne. N'oubliez pas que lundi prochain, nous sommes à Strasbourg pour notre étape de l'After Tour dans le local des.
Et demain à Lyon.
De l'association des supporters. Et demain, de la fédération des supporters, pardon. Et demain, l'After sera en direct de Lyon avec le retour de Fred Piquian parmi nous.
Ah.
Eh oui! Fred Piquian, sa playlist et tous, et surtout son opinion et son expertise.
Tu es en train de me dire qu'on va faire la route du centre-ville au stade, une heure de route, avec la playlist de
Fred Piquian. Une heure quand ça roule.
Hein. T'as dit bien sa playlist ou.
Hein bah, Daniel est resté traumatisé. Hein.
Daniel a du même goût.
Daniel a du mal avec le zouk. Bon,
je ne sais pas si la phrase on n'a pas les mêmes goûts, ça colle. Il faudrait que ce soit un goût. Non mais c'est même pas. Mais non, mais si c'est
le zouk, ça fait du bien.
Mais c'est pas du vrai. Ah.
Bah, c'est surtout
c'est
que
c'est du trafiqué. C'est du remix. C'est du tombé de camion. Dis-lui.
Allez, à demain soir, on sera là.
Pareil pour demain, il va me faire un enfer. Il va me vider la tête.
Ah, tu m'as fait peur.
Tiens, écoute ça.
J'entends rien.
Ah ouais, non, mais je croyais qu'il voulait te mettre du zouk, notre polo. Mais non. Bon, allez, à demain soir, après le match. Salut à tous.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.